Bonjour à toutes et à tous.
Comme l'a dit Thomas, je vais vous parler de la transmission de la mémoire dans le roman Cielos de la Tierra, publié en 1997 par l'écrivaine mexicaine Carmen Bohullosa. Et je commencerai donc par vous présenter ce livre. En regardant la quatrième de couverture, on peut tout d'abord voir qu'il est qualifié de roman presque historique, roman d'utopie, roman ouvert et roman portrait. Il s'agit de fait d'un roman à la frontière des genres qui joue avec la multiplication de narrateurs autour d'un manuscrit qui a été traduit, réécrit, recomposé et retranscrit, faisant ainsi de la transmission un enjeu majeur de sa construction même. Concrètement, le corps du roman est composé de trois récits dont les morceaux s'alternent, trois récits renvoyant à trois époques distinctes. À l'origine, nous nous situons dans la première moitié du XVIe siècle, après que les Espagnols ont conquis ce qui aujourd'hui correspond au Mexique. En 1536 est fondée la première école destinée à éduquer les fils de la noblesse indigène. Il s'agit du Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Notre premier protagoniste, qui s'appelle Hernando de Rivas, en est un ancien élève et dit vouloir en raconter l'histoire. Après avoir rédigé sa chronique en latin dans le dos de ses contemporains, il la cache. Et ce n'est qu'à la fin du XXe siècle qu'elle refait surface, arrivant un peu par hasard entre les mains d'Estella, une Mexicaine de 40 ans, qui décide de la traduire vers l'espagnol et ajoute un prologue afin d'expliquer les raisons de cette décision. On a donc ici notre deuxième niveau narratif. À son tour, Estella cache sa traduction, car elle veut qu'elle ne serve à personne d'autre. Quant au troisième niveau, en bas, il se situe dans un futur post-apocalyptique où l'être humain s'est auto-détruit en anéantissant la nature. Il ne reste alors plus qu'une communauté de 39 survivants qui ont vaincu la maladie et la mort et essayent de reconstruire la nature. Le problème dans tout ça, c'est qu'ils méprisent leur héritage humain et conçoivent une série de projets pour s'en éloigner le plus possible. Des projets comme abolir la mémoire, le langage ou les rêves. Lyre, qui est notre troisième protagoniste, est la seule à être en désaccord avec cela. En plus de réaliser une transcription du manuscrit au langage de sa communauté, elle se livre à une description de la vie de ses congénères et les conséquences désastreuses de leur projet. C'est d'ailleurs elle qui organise le corps du roman en alternant des morceaux de la traduction de la chronique, du prologue d'Estella et de son propre récit. Puis il nous reste deux autres voix par-dessus. Qui apparaissent au tout début du roman dans deux notes d'auteur. La voix de l'écrivaine Carmen Bohullosa et un personnage qui s'appelait Juan Nepomuceno Rodríguez Álvarez qui affirme avoir reçu le livre pour en faire un roman. Ce livre a déjà suscité plusieurs travaux pouvant être liés à la transmission, notamment depuis une perspective intertextuelle qui a permis sa mise en lien avec les chroniques du XVIe siècle et avec les romans d'anticipation, mais aussi depuis une perspective contextuelle sous l'angle de la mondialisation, du post-humanisme ou de l'humanisme. Pour ma part, je me suis concentrée plus particulièrement sur la vie de l'écrivaine. J'avais remarqué que les personnages affirmaient vouloir dire quelque chose et en disaient une autre, et qu'en réalité, un bon nombre des souvenirs qui sont présents dans le récit renvoyaient en réalité à la vie de l'écrivaine. Je me suis alors posé la question suivante. De quelle manière la mémoire de l'écrivaine se transmet derrière l'artifice littéraire du manuscrit trouvé? J'ai alors décidé de réaliser une lecture autobiographique du roman en organisant mon travail autour de l'idée que le personnage d'Estella pourrait être un double de l'écrivaine. Cela dans le but de réfléchir à une certaine modalité de la transmission de notre mémoire et à la tension entre ce qui est prétendument dit et ce qui l'est réellement. Nous aborderons dans un premier temps les raisons que partagent l'écrivaine et son personnage pour se mettre à écrire sur le passé. Nous verrons par la suite que Carmen Bohullosa projette en elle sa mémoire individuelle et familiale. Et nous terminerons par parler de la mise en abîme de la transmission de la mémoire par la création littéraire. Donc nous allons commencer par voir ce qui pousse l'écrivaine et son personnage à parler du Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco. Dans une interview, Carmen Bouillosa soulignait le rôle de l'atmosphère du moment de la création dans ses romans, dans le sens où un roman reflète son temps. Et cette idée se retrouve dans sa note d'auteur, où elle affirme que le rôle de l'auteur appartient au battement, je cite, au battement d'une violence destructive que j'ai perçue dans l'air, dans ma ville et dans d'autres endroits. Une atmosphère palpitante, si on peut la décrire ainsi. Et Stella nous transmet sa propre inquiétude face à ce phénomène qu'elle perçoit dans le Mexique des années 90, celle des bandes organisées, des pauvres, des riches et des puissants, et constate une banalisation de la violence. Cette violence du présent est aussi liée au manque de considération des peuples autochtones au moment de l'écriture du roman. L'écrivaine porte un regard critique sur le Mexique du XXe siècle et nous le décrit comme ayant hérité du système de caste de l'époque coloniale. En gros, il s'agit d'une hiérarchie basée sur l'origine ethnique, où tout en haut, on avait les Espagnols venus de la péninsule, en dessous, on avait leurs descendants nés en territoire américain, et encore en dessous, les Indiens, les Noirs et tous les types de métissage. Sauf que, bien évidemment, pour quelqu'un qui était tout en haut, se mélanger avec ceux qui étaient plus bas, c'était redescendre dans la hiérarchie sociale. Et cette réticence au mélange et cette hiérarchie dont aurait hérité le Mexique est représentée métonymiquement à travers les actes de la famille d'Estella. Elle affirmait ainsi que ma grand-mère et les membres de ma famille jugèrent normal, jusqu'il y a peu, que les Indiens les portent sur leur dos pour ne pas couvrir de boue leurs chaussures, et parce que leur famille s'est toujours mariée entre elles pour ne pas être contaminée de sang indien. Carmen Bouillosa partage probablement avec Estella l'idée que la réussite du Colegio de Santa Cruz aurait pu changer cela. Sabine Condazzo Ramírez supposait en effet que l'écrivaine voyait le collège comme la possibilité d'une meilleure intégration des Indiens à partir des informations suivantes. Elle disait « Toute notre histoire aurait été différente si le Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco n'avait pas été détruit. Toute notre histoire comme Mexicain aurait été différente, complètement différente. Et le pays aussi. » Propos qui sont repris par son personnage lorsqu'elle affirme « Et parce que, je crois, notre histoire aurait été différente si le Colegio de la Santa Cruz de Santiago de Tlatelolco n'avait pas subi son triste sort. » Je vais maintenant passer à la deuxième partie, qui partira de l'idée que Carmen Bouillosa projette sa mémoire individuelle et familiale dans son personnage. Si Diana Sofía Sánchez Hernández pensait que le roman était une autobiographie fictionnelle, mais sans faire le lien avec l'auteur, Marie-José Anaï signalait pour sa part la présence de l'absence qui sous-tendait le roman, puisque le livre que le lecteur tient entre ses mains n'est pas le manuscrit d'Hernando. Une autre absence qu'on peut remarquer est celle de l'écrivaine. Elle fait un usage répété de l'artifice littéraire du manuscrit trouvé, d'où l'absence de pacte autobiographique. Pourtant, lorsqu'on compare le vécu de l'écrivaine avec ceux de ses personnages, on peut observer de nombreuses résonances. Premièrement, ce personnage est une Mexicaine de 40 ans dans les années 90, soit proche de Carmen Bouillosa, puisqu'elle avait 43 ans au moment de la publication du roman en 97. Et toutes les deux ont eu des parents catéchistes. Par ailleurs, Estella explique de manière indirecte son attachement au manuscrit en évoquant plusieurs de ses souvenirs. Mais certains sont des digressions qui n'observent pas son explication. Et c'est justement dans ces parenthèses qu'on trouve des points communs avec la vie de l'écrivaine. À un moment, par exemple, elle mentionne une de ses peurs, celle de mourir aussi jeune que sa mère, et affirme « Pourvu que je n'ai pas ce destin, celui de mourir jeune. » Mais ça, c'est une autre histoire, celle de la peur de crever à l'âge de ma maman ou celui de mon grand-père. Et de toute manière, moi, je suis déjà plus vieille que les deux. Je suis plus vieille que ne l'a jamais été ma maman. Cette affirmation rappelle la vie de Carmen Bouillosa, car elle a perdu elle-même sa mère à l'âge de 15 ans. Et avec ses 43 ans, au moment de la publication du roman, elle dépassait effectivement les 37 ans de sa mère. Pour rester sur le thème de la famille, la grand-mère de l'écrivaine avait eu un rôle très important dans sa vie. Et elle trouve sa représentation romanesque à travers celle de Estella. Ces deux grandes cuisinières et conteuses d'histoire sont associées à un souvenir très précis, celui d'une punition qui leur avait été infligée lorsqu'elles étaient jeunes parce qu'elles avaient voulu sauter à la corde, ce qui était interdit aux jeunes filles de leur époque. Par ailleurs, elles avaient de grands projets pour leurs enfants, ne voulant pas qu'elles finissent leur vie à faire le ménage ou la cuisine. Et pourtant, Carmen Bouyosa, elle aime beaucoup cuisiner. Les parenthèses culinaires auxquelles Estella se livre à plusieurs reprises font aussi partie de ces petits éléments que partagent l'auteur et son personnage. Elle nous parle ainsi du fromage de Chiapas de son enfance, d'une recette pour cuisiner des crabes ou d'oignons à l'escabèche qu'elle mangeait à la sortie de l'école. Ces passages, qui pourraient paraître superflus puisque hors sujet, montrent pourtant une de ses passions et une de ses hontes passées. Elle affirmait ainsi dans une interview de 2023 qu'elle avait honte de dire qu'elle avait dans la tête autant d'oignons, de tomates et de poivrons. Pour finir, Estella est le personnage le plus effacé des trois, ce qui se voit dans la répartition de la parole dans le roman, car elle n'intervient que 4 fois, contre 18 fois pour Hernando et 19 pour Estella. Et elle affirme aussi, moi, je me tais. Je ne suis pas écrivaine et je n'ai pas gagné avec ma place, avec ma génération, ma place pour parler, s'effaçant ainsi comme Carmen Bouyosa prétend s'effacer. Ainsi, à travers le personnage d'Estella, Carmen Bouyosa nous livre des éléments de sa mémoire individuelle et familiale, certaines de ses hontes et passions. Pour finir, je vais vous parler de la mise en abîme de la transmission de la mémoire. Diana Sofía Sánchez Hernández soulignait l'importance de la subjectivité d'Estella dans le roman. Cette subjectivité prend le dessus sur le contexte historique, puisqu'Estella traduit et réécrit le texte en modifiant volontairement certains passages. Elle affirme ainsi « J'ai même pris la liberté de compléter les parties qui font référence à sa propre personne, en utilisant ce que mon imagination m'offrait. Et ainsi je continuerai à le faire. Pourquoi pas ? C'est ma lecture, exagérément personnelle, d'un manuscrit qui m'appartient, qui me parle à moi depuis le XVIe siècle, qui m'explique mon présent. » La mise en valeur des possessifs en italique souligne le fait que la subjectivité prévaut sur la représentation fidèle des faits. Mais avant d'avoir délégué cette action au personnage d'Estella, c'est bien Carmen Bouyosa qui a construit le manuscrit. N'ayant pas la possibilité d'accéder au témoignage d'Hernando, bien qu'il a existé, elle s'est elle-même livrée à une création mêlant documents historiques précises et souvenirs personnels. Sans qu'on sache si cette information... Sans qu'on sache si cette information est sortie de l'imagination de Stella ou si elle figurait sur l'original d'Hernando, le moment où il a connu les histoires des reliques d'une église est raconté sur 10 pages et lui aussi s'éloigne de son propos annoncé, qui était raconter l'histoire du collège. Mais il raconte à cette occasion des histoires qui ont une grande importance dans l'enfance de l'écrivaine, qui sont les vies de saints, car ses parents étaient très croyants. Il ne s'agit que d'un exemple, mais Hernando, comme Estella, n'arrête pas de digresser. Cette mise en abîme de la transmission de la mémoire se voit aussi dans la première intervention d'Estella, où elle se pose en spectatrice de son propre passé, afin d'expliquer son attachement au manuscrit. Elle se met ainsi à le décrire de l'extérieur, tout comme Carmen Bouyosa projette en elle son passé et celui de sa famille. Elle se désigne donc à la troisième personne, ici. La grand-mère et la petite fille discutent, donc la petite fille c'est elle. Et tout comme le passé de l'écrivaine s'infiltre dans la vie des personnages, Estella ne peut maintenir son rôle de spectatrice et revient à la première personne du singulier, soit entre parenthèses, là quand elle dit Velázquez Canseco, les deux noms de famille de mon grand-père, soit en commentant depuis le moment de l'écriture son ressenti ou en ouvrant des parenthèses au sens figuré, comme lorsqu'elle se met à raconter le passé de sa grand-mère, puis passer une digression culinaire. Ainsi, la transmission subjective et altérée de la mémoire est mise en abîme. Pour conclure, dans le roman Cielos de la Tierra, Carmen Bouyosa nous transmet une partie du passé pour éclairer son présent. Elle puise dans sa manière d'appréhender le monde pour mettre des mots sur sa mémoire individuelle, familiale et une certaine vision de son pays à la fin du XXe siècle. Cette transmission se réalise de manière camouflée derrière l'artifice littéraire du manuscrit trouvé. notamment à travers les lectures des personnages, leurs souvenirs et leurs motivations pour écrire. La transmission de la mémoire par la création littéraire se voit ainsi mise en abîme dans la délégation répétée du rôle de l'auteur. Mais c'est aussi à travers la digression et les détails autobiographiques que ce processus se déroule, car ces anecdotes, des peurs, souvenirs, hontes et passions dessinent en transparence le portrait de l'écrivaine. Merci pour votre attention.
Bien, merci beaucoup.
Désolée pour le retard.
Oui, c'est pas grave. Y a-t-il... Allô ? Y a-t-il des questions, éventuellement ? Oui, monsieur Carreau.
Merci Salomé pour cette présentation. Bon, j'ai pas besoin d'une approche. J'ai une voix d'enseignant. Comment interprétez-vous la présence de toutes ces digressions ? Est-ce que c'est une manière pour l'auteur ou le narrateur de rappeler qu'il tient le fil du récit et que le lecteur est obligé de le suivre, qu'il le veuille ou non ? Comment interprétez-vous ce phénomène de la digression ?
En fait, pour moi, je voyais la présence de l'écrivaine à travers les digressions de ses personnages. Je voyais que sa voix s'infiltrait à travers les digressions des personnages dans ce qui est apparemment superflu et qui, au final, révèle des choses de la vie de la propre écrivaine.
Il y a une tradition dans la littérature anglophone, britannique en particulier, dans la littérature du XVIIIe siècle, d'utiliser beaucoup de digressions précisément pour avoir un fil narratif assez tortueux. Je ne sais pas si c'est le cas aussi dans la littérature hispanophone, mais ça s'inspire aussi d'une tradition.
Mais en fait,
pour laquelle je vous posais la question.
La digression prend presque plus de place que le propos annoncé par les narrateurs, c'est ça qui est drôle. Parce qu'ils disent « je vais raconter quelque chose » et en fait ils le font pas, ou alors ils le font de manière détournée et ils remarquent eux-mêmes qu'ils digressent, ils le font remarquer en toutes lettres qu'ils sont en train de digresser, qu'on pourrait détruire leur texte parce que c'est pas ce qu'ils avaient annoncé. Mais n'empêche qu'ils le laissent et ils le transmettent.
Donc il y a une communication particulière avec le lecteur.
Merci. De rien.
Quelqu'un d'autre ?
Quelqu'un d'autre ? Non ? Alors moi j'ai une toute petite question. Dirais-tu que justement cette porosité entre l'autobiographie fictionnelle et le récit du passé puisse corrompre en fait le processus de transmission justement de ce passé ?
Oui, alors attendez, je vais ressortir une citation. Il faut que je la retrouve. En fait, le personnage d'Estella dit ouvertement qu'elle est en train de sélectionner l'information, qu'elle modifie. J'ai pas tout mis parce que j'aurais lu trop de citations, mais elle le dit aussi en toutes lettres. Elle ne transmet pas fidèlement le passé. Elle sélectionne des informations, elle raconte ce qui l'intéresse, elle accentue des passages, elle fait même dire au personnage des choses qu'il aurait pas dites. Donc oui, là, c'est pas du tout une vision fidèle des faits. Elle raconte, elle parle du passé, mais en lien avec son présent.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut l'applaudir une seconde fois.